maintenant, on va poursuivre avec les critiques sociales du travail. Et les artistes Robert Schliss et Romain Nash-Malich, et aussi Thierry Mermec. Et cette table ronde va être co-modérée par Marc Lasseux, président des Amis du FRAC et aussi psychanalyste. Et Nicolas Daudet, directeur de travail culturel.
Critique sociale et artiste du travail, avec quatre intervenants, donc Marc Lasseau, président des Amis du FRAC et psychanalyste, les artistes Robert Schliss et Romain Nash-Malich, réalisateurs, philosophes, artistes des arts visuels, et Thierry Mermec, qui est artiste et qui travaille à partir de nombreux supports, vidéos, installations, sculptures, notamment autour des questions du travail. Pour commencer, et avant de passer la parole aux artistes, on avait avec Marc, sur sa proposition, l'idée qu'il puisse revenir rapidement et profondément, ça je lui fais confiance, sur la notion de travail, en essayant d'expliciter qu'est-ce que c'est que le travail et du point de vue de l'activité. C'est peut-être la chose la plus dure à saisir avant de passer à la présentation des artistes. Marc, c'est à toi.
Merci, Nicolas. Alors, je précise que je suis psychanalyste et je suis psychanalyste dans le champ du travail, entre autres. Intervenant dans des organisations. Il me semble que cette dernière table ronde de cette proposition, c'est de croiser le champ des sciences sociales, puisqu'on parle de la critique du travail. Alors, sans doute faut-il entendre dans la critique du travail une analyse structurelle des réalités du travail. D'ailleurs, elles ont été évoquées depuis ce matin. Donc de croiser ces réalités décrites par, dans le champ des sciences sociales avec le champ des représentations. Quand on parle du travail, de quoi et de qui parle-t-on? Et c'est ça que je vous propose en quelques mots. Alors, profondément, ça renvoie au fait de pouvoir le développer, donc je ne le développerai pas comme je pourrais le faire en d'autres lieux, parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. Quand on parle du travail, tout d'abord, on est renvoyé à un plan qui est celui de l'anthropologie, c'est-à-dire le fait que le travail est historiquement lié à une transformation. Une transformation par un agir sur de la matière ou éventuellement sur ce qu'on pourrait appeler de l'immatériel. Et cette transformation indique qu'il y a quelqu'un, quelqu'une, qui va procéder à cette transformation de données, de matériaux à l'état brut, pour en faire un produit, une pensée, une organisation, selon certaines modalités. Alors, cette transformation, on pose la question d'une différenciation entre les moyens de production qui sont habituellement attribués à l'employeur, à l'actionnaire, enfin en tout cas au possédant des moyens de production et le travail. On pourrait dire que le travail appartient à celui qui le produit. Mais ça, quand on dit cela, on se place du point de vue des sciences sociales, et des travaux que les sociologues, que les psychosociologues, voire des psychanalystes ou des anthropologues pourraient produire et de fait produisent autour de ces réalités, parce qu'il est avéré que dans le sens commun du travail, le travail appartient à celui qui le donne, ce qui n'est pas du tout la même chose. Or, ici, il me semble que dans cette table ronde, on va, et dans celles qui ont précédé, on s'est plutôt intéressé au travail en tant qu'il est produit par celui qui le crée. Alors, on peut d'ailleurs le vérifier, hein, c'est-à-dire que si le travail appartient à celui qui le produit, c'est donc que celui qui le produit a un agir. Et tout à l'heure, les artistes qui ont précédé ceux de cette table ronde ont spécifié en quelque sorte les interstices qui viennent se mettre dans un travail procédural, un travail normalisé, normatif. Autrement dit, dans tout travail, il y a effectivement des interstices, y compris dans un travail normalisé, qui est lié au savoir-faire, voire à un savoir-y-faire, c'est-à-dire, ça fait penser à ce que le psychiatre Christophe Dejon, qui a beaucoup travaillé sur les souffrances au travail, disait si dans les entreprises, les salariés s'en tenaient au protocole, eh bien très souvent, on ne produirait pas. Pourquoi ? Parce que ce qui est prévu comprend un grand nombre d'imprévus et d'impensés qui font que si on s'en tenait, on ferait la grève du zèle en quelque sorte. Hein, voilà ce que dit Dejon. Par ailleurs, ça renvoie au fait que, toujours à propos du travail qui appartient à celui qui le produit, c'est qu'il y a une histoire individuelle et collective qui se constitue sur le lieu même du travail, il y a de la transmission, et puis il y a aussi des cultures qui sont acquises par des populations. Même si on est dans le white cube de... qui n'est pas le white cube du musée, mais qui est le white cube de l'usine, comme on l'a vu tout à l'heure. Le travail donc renvoie au champ social et culturel, à l'appartenance. On appartient par le métier, et dans l'entreprise, il y a des métiers différents. On a des rituels et des pratiques codifiées. On a des façons de résoudre des imprévus et des impensés. J'en parlais à l'instant. Tout à l'heure, il a été question des affects. Et le travail est aussi un endroit d'investissement psycho-affectif. Alors, je précise tout de suite qu'à cet endroit-là, j'introduis une différence entre le fait qu'il y a des affects qui viennent des sujets au travail et le fait qu'on veuille psychologiser le travail. Hein, moi, je ne suis pas du côté de la psychologisation avec, si vous voulez, tout ce qui pourrait être le matériau... Allez, du développement personnel, hein, il ne s'agit pas de le mettre ici en cause, mais vous voyez l'idée qu'on aurait les ressources en nous, toute cette idéologie-là. Non, ici, il s'agit du fait que n'importe quel travail crée de fait un espace psycho-affectif qui est à la fois individuel, c'est-à-dire comment je vais investir mon travail et investir du geste, de l'histoire, etc., et en groupe. C'est-à-dire, quelle histoire nous pouvons raconter en groupe de ce que nous avons vécu. Et c'est d'ailleurs une des plus grandes difficultés de ce qu'on appelle le changement en entreprise, c'est que la plupart du temps, le changement vient éradiquer l'histoire que nous avons eue, parce qu'elle est disqualifiée comme étant le passé, et d'autre part, parce qu'il s'agit de se projeter dans un avenir souvent... écrit de toutes pièces. Voilà, peut-être pour terminer, je dirais que pour le psychanalyste, dans le travail, il y a toujours de l'autre. Et que le fait qu'il y a toujours de l'autre, ça inclut qu'il y ait du lien. Voilà. Dernier point, parce qu'on va peut-être l'évoquer à propos de la critique sociale et de la critique artistique. Ça a été dit tout à l'heure, mais donc je ne fais que le rappeler, le travail est pris dans des idéologies. Et des idéologies à des endroits où on ne les attend pas, parce qu'on pourrait penser aux grandes idéologies libérales, marxistes, etc. Mais on pourrait dire aujourd'hui que le discours managérial tel qu'il est constitué et tel qu'il agit est en soi une idéologie. Donc il s'agit aussi d'aller, pour des artistes, pouvoir la revisiter.
Merci beaucoup, Marc, pour cette introduction. J'ai tout de suite passé la parole à Romana Schmalich et Robert Schlicht, juste pour vous représenter un peu à nouveau, pas dire un mot. Vous êtes donc réalisateur et philosophe. Votre travail se situe au croisement la réalisation, la réalisation cinématographique et la théorie, notamment sur la formation historique et les structures sociales, avec une dimension éthique assez affirmée. En 2019, vous avez réalisé et présenté à la Berlinale notre film Lego PowerPoint, sur lequel on va revenir, qu'on aura le plaisir de découvrir en salle de cinéma juste dernière à 19h tout à l'heure. Et vous avez été également en résidence avec Chimera, l'Institut Méditerranée de l'Avancée ex-Marseille, et Montevideo en 2023-2024, notamment en produisant une pièce qui s'appelle Chorégraphie des marchandises dans le port de Marseille, que j'ai découvert à Marseille, et qui est vraiment un très 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 beau boulot. D'ailleurs, ça aurait mérité que vous soyez aussi dans la table ronde sur la résidence d'artistes en entreprise, parce que là, c'est une très grande résidence dans un très grand territoire d'entreprise qui est le port de Marseille. Ouais. Je vous laisse la parole pour présenter votre travail.
Alors, on commence avec un petit trailer, un peu la pub aussi pour le film qui va être projeté plus tard. Bon, alors, ça c'est le trailer du film Les Vapeurs Pleines, traduit mes usines de main-d'œuvre. Et c'était un cycle de travail qu'on a commencé en 2012-13 et ça a pris plusieurs formes, on va les présenter aussi plus tard, mais pour commencer, ce travail a commencé avec une ou des questions très abstraites, très générales, et la question c'était qu'est-ce que ça veut dire vraiment de travailler et comment on apprend le travail, quelle exigence ou quelle demande chaque personne est là pour en français quelquefois et pas bien les exigences que le marché de travail nous demande et nous on est obligé de le vendre. Et ces questions c'était un peu au cœur de ce projet et on s'est demandé comment avec ces questions qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut le rendre visible, quelle structure artistique ou quelle structure on pourrait imaginer de peut-être de faire quelque chose de visible.
Oui, parce que c'est qualité, qui sont, je m'excuse pour mon français, ces qualités qui sont demandées sont nouvelles, peut-être, pas bien sûr les individus, attendez, j'en ai marre, il existait toujours dans les individus, mais c'est nouvel, relativement nouveau. Qu'ils sont demandés sur le marché du travail. Oui, alors.
On s'excuse parce qu'en français, c'est pas si facile. Pour enchaîner, c'était on s'est demandé quel est le changement aujourd'hui avec une chose mais très générale, une chose qui touche toujours dans la question de travail. Et pour venir sur notre idée, c'était aussi qu'est-ce que ça veut dire, comment on produit, si on imagine comment on produit aussi une force de travail et quelle structure on pourrait créer pour le montrer, parce qu'on a rapidement avait le problème qu'on a rentré dans des différentes structures de la formation, que qu'est-ce qu'on voit, ça ressemble tellement peut-être pour chaque personne tellement naturel, mais comment on peut montrer que quand même c'est pas naturel, c'est créé des êtres humains,
Et ça, c'était le moment, après une phase de quelques mois, ou quelques années même, d'observation dans les formations, de penser à une structure fictionnelle qui s'appelle Labour Power Plant. Et ça, c'est une structure dans notre idée ou proposition qui produise la force de travail des humains qui rentrent dans cette structure et qui sort comme une force de travail pour se mettre à vendre.
Oui, ou qui transforme les êtres humains en des ressources humaines. Ça a l'air un peu dystopique, mais tous les cours qui ont recréé dans cette structure sont recréés, ça veut dire qu'ils existent. Alors, si vous.
Si vous regardez le film.
Vous venez voir, je ne sais pas, 90% des cours qui sont bien réels. Et alors, la fiction, la seule fictionnalisation qu'on a utilisée, c'est cette structure. Mais tous les éléments sont réels.
Et l'idée vient peut-être de cette aussi fictionnalisation dans les formations, on était sûrement intéressé dans la formation parce que c'était un moment où il y avait les gens qui sont en emploi et ça veut dire qu'il y avait un moment de dysfonctionnement. Et pour cette raison aussi, ce qu'on a dit, où on peut trouver des moments qui rendent visibles aussi ceux qui marchent, ou quand ils ne se marchent pas, on voit qu'est-ce que ça veut dire aussi derrière. Et ça veut dire que ce moment d'apprendre quelque chose, c'est un moment où on est obligé de passer, d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, des règles, des choses, les gestes. Alors il y a la parolisation qui est très très intéressant. Alors seulement pour aussi dire pourquoi on s'est concentré aussi sur différentes structures de formation pour l'emploi, mais aussi plein des autres structures privées. Ça c'était un peu le setting du film et des gens. Peut-être rapidement aussi la question, après une observation de 12 ans, se poser aussi comment on peut trouver une façon de travailler avec les gens. Et c'était très rapide qu'on a compris qu'il faut sortir ces institutions et créer des workshops avec les gens qu'on a rencontrés parce que on n'était pas dans un cadre comme résidence artiste. Ça veut dire que c'était nous qui a essayé de trouver des petits chemin, et à chaque fois on a trouvé des gens quand même qui étaient très intéressés de discuter, mais c'était pas possible dans le cadre. Alors c'est très rapidement clair, il faut créer un cadre extérieur de Pôle emploi ou des structures et de rassembler des différents gens de formateurs, mais aussi des gens qui n'ont pas qui sont au chômage, et d'avoir des discussions, mais aussi de simulations aussi dans ces lieux. Ça, c'était dans des différents espaces où on s'est mis le week-end ensemble.
Merci.
Alors ça, c'était un peu un moment de préparation, mais en même temps, on se demandait aussi qu'est-ce que ça veut dire aussi de produire un film. Et c'était aussi un moment où on a vu rapidement aussi des parallèles entre créer un film et le sujet. Parce que, par exemple, le moment de casting, c'était exactement ce que nous, on va montrer dans le film. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui viennent, parce qu'on a mélangé aussi des amateurs ou des gens de la structure plus tard avec des acteurs, mais ils étaient là pour se vendre, ils ont envoyé aussi leurs fichiers, combien de poids, qu'est-ce que eux, comment dire, toutes leurs capacités, et c'était ça que nous on voulait aussi montrer dans notre film, toutes ces capacités qui sont demandées de marché, très générales. Ça, c'était un aspect. Et un autre, peut-être parce que j'ai pas introduit aussi la question, par exemple, des méthodes. Quand on s'est lancé, il y avait aussi un moment qui était très important pour nous, c'était aussi le théâtre.
C'est aussi c'est un autre aspect qui est tiré de la réalité. C'est peut-être vous le connaissez, c'est le théâtre d'entreprise qui est très fameux en France en particulier, et qui sont des groupes de théâtre qui sont appelés par le management pour essayer de résoudre les problèmes entre les gens, harcèlement, ou conflits sociaux, ouais. Et qui vient dans le modèle
l'entreprise.
Et on observe qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui manque. Créer également une nouvelle pièce pour les gens qui travaillent là-bas. Et ça, c'est un et pour premièrement, pour présenter le problème, mais aussi pour mettre les gens dans une position où ils peuvent parler, oui. Oui, c'est une méthode qui vient du théâtre d'opprimé. Inventé par Auguste Boal en Brésil et qui était un théâtre révolutionnaire. Alors, c'est pervers, c'est comme ça. Oui, et on a utilisé ça un peu dans le film aussi.
Oui, et pour cette raison, on a utilisé aussi des acteurs dans le film qui changent de temps en temps aussi un peu la narration dans les cours. C'est pour cette raison on a mélangé acteurs et les gens de sur place. Peut-être pour faire le changement pour les conteneurs, seulement à la fin. Ce projet a duré plusieurs années. On a créé différents formats. On a créé une pièce de théâtre qui exactement joue sur les conditions de travail au théâtre et en même temps joue aussi avec théâtre d'entreprise. Alors on ne sait pas si c'est une pièce de théâtre et ça se tourne à la fin. fin sur une intervention de management. Ça veut dire que le public va être plus tard comme des spectateurs d'une intervention de théâtre d'entreprise. On a eu une exposition ici au FRAC 2018 qui... oui, qui questionnait aussi qu'est-ce que ça veut dire présenter ce sujet au musée et qu'est-ce que ça veut dire qui vient. On avait un petit questionnaire au début, un petit jeu, pour quelles raisons vous venez pour regarder l'expo, est-ce que vous avez le temps libre pour ça. Alors, c'était plutôt la question de travail et musée.
Et on a aussi utilisé le lieu. Ça, c'est l'office de management de l'événement en plein, mais c'est aussi le FRAC, ici. Quatrième étage. Merci.
Et après, oui, on avait aussi une autre exposition à Berlin. Qui était plutôt sur la question de modèle de travail et peut-être pour faire le changement sur le conteneur de humain sur l'objet un peu abstrait. Alors seulement pour vous dire, parce que c'est un autre cycle qui commence maintenant, qui est plutôt nouveau, mais nouveau ça veut dire que ça fait maintenant 2 ans qu'on a commencé une recherche, et là c'était l'idée de commencer avec la boîte, le conteneur, comme une image emblématique, et de creuser aussi cette structure qui cache beaucoup, et comment on peut, comme avant, de se dire comment on peut rendre visible aussi un objet qui est quand même une représentation de la globalisation. Peut-être on montre un chapitre. Il y a aussi différentes formes. Il y a en ce moment une pièce de théâtre qui se crée. Il y a une installation qu'on a présentée au FRAC Sud, parce que c'était là où on a travaillé ou fait une recherche pendant 2 ans sur le terminal et conteneur. Et il y aura un film, peut-être dans 1 ou 2 ans, on ne sait pas encore, qui mêle aussi la fiction avec, avec des prises documentaires.
Oui, mais autrement que dans l'évapore plein. On va voir. Oui, mais ça, c'est l'installation pour le monde de l'art maintenant, et le film va être différent.
Merci beaucoup à tous les deux. Donc, sans transition, on va changer de paysage, puisqu'on va écouter Thierry Verbeck. Donc, Thierry, donc tu es artiste, tu vis dans la région de France. Je disais tout à l'heure en introduction, ton travail se déploie à partir de supports très très différents en fonction des projets que tu mènes. Donc, ça peut être de la sérigraphie, de la photographie, du dessin, de la vidéo, de la performance, de la sculpture, je crois que dans les pas de la couture, donc voilà, en fonction de chaque contexte. Et dans ton œuvre, tu travailles maintenant un des fils conducteurs, il y en a plusieurs, c'est la question du travail. Et donc, on a convenu ensemble que tu puisses, avec le temps qui t'est imparti, présenter un florilège, en fait, de travaux qui tous abordent cette question du travail avec parfois une dimension ironique, parfois une dimension, toujours une dimension sensible, mais toujours avec, de mon point de vue en tout cas, un ressort critique tout à fait intéressant et complexe. Je te laisse officier. On va juste faire le changement de place pour que tu puisses le remettre.
Thank you.
jours. Donc, Nicolas a fait une présentation assez complète, je pense. C'est vrai que dans mon travail, dans mes productions artistiques, il y a beaucoup de choses qui sont en relation avec le monde du travail. Et donc j'étais un peu frustré quand il m'a dit qu'on avait 20 minutes pour expliquer tout ça. J'aurais bien aimé parler d'une collaboration qu'on vient de faire ensemble avec Travail et Culture, qui est une résidence dans une entreprise qui fait du recyclage de zinc. Juste un mot pour dire qu'on a créé un nouveau rituel en fait au sein de cette entreprise et que ça concerne le moment du départ en retraite. Voilà. Je vais faire un peu d'archéologie. Je vais vous présenter des pièces qui concernent le travail qui vont jusque 2017 peut-être. Je n'ai plus la date en tête. La première fois en fait que j'étais confronté à cette idée de produire quelque chose qui soit en relation avec le travail, c'est venu par deux personnes qui avaient fait métier d'exposition à Rennes et qui débarquaient dans la région nord et qui me proposaient en fait de faire une exposition qui s'appelle le travail c'est la santé. J'avais au préalable jamais produit des choses qui concernaient donc du travail. Et la seule expérience que j'en avais, c'était par des petits jobs quand j'étais étudiant et puis par mon inscription assez récente à la NPE pour pouvoir bénéficier d'une formation. Puisqu'en réalité, je travaillais mes quelques heures, donc j'avais le droit à rien, mais on m'avait fait miroiter une formation. En réalité, la formation, je ne l'ai jamais eue. On était donc en 2000. En 2000, à l'époque, il faut peut-être replacer un peu dans le contexte. On était passé, en 97, on avait 12,6% de chômeurs. Et en 2000, on était tombé à 9,2%. Donc, c'était, comme on le dit maintenant, tous les voyants étaient au vert. Le gouvernement, en fait, était très satisfait de ce qu'il avait fait. Moi, je le vivais un peu différemment puisque je m'étais inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi et puis qu'on m'avait convoqué une fois, un jour où je travaillais, et le lendemain, quand j'y suis retourné pour m'excuser de mon absence, on m'a dit « Mais monsieur, vous êtes rayé des listes des chômeurs. » Donc je pense que j'ai contribué un peu, quelque part, à ma manière à faire de cette année 2000 une très bonne année pour des chiffres du chômage. Donc c'était Madame Guillou qui était en charge du ministère du Travail et de... comment ça s'appelait c'était un terme spécial. Je ne le retrouve pas. Bon, peu importe. Et donc elle avait déclaré que c'était donc la meilleure année du siècle en matière d'emploi, en fait. Je ne sais pas si c'était le siècle à venir, puisqu'on est en 2000, ou si c'était le siècle précédent. Mystère. Donc du coup, pour cette exposition « Travail, c'est la santé », j'avais fait une première proposition qui était une espèce d'expérience au sein de Pôle emploi. Donc j'avais envoyé un courrier à Pôle emploi pour leur dire que peut-être qu'il y avait un petit problème au niveau de l'accueil des chômeurs. Et donc, je leur ai proposé, à titre expérimental, de remplacer tous les paillassons des agences pour l'emploi par des tapis rouges, un peu comme au Festival de Cannes, pour que ça soit plus chaleureux et accueillant, et d'offrir une coupe de champagne à tout nouvel inscrit, en fait, dans chaque agence. Alors, j'ai eu une réponse, on m'a dit non. Donc j'ai fait une deuxième proposition qui était de créer je m'inquiétais un peu aussi pour les gens qui travaillaient au sein de la structure, puisque en fait chaque jour on me disait il y a de moins en moins de chômeurs. Et donc j'ai fait une nouvelle proposition qui était d'aller chercher les chômeurs finalement, puisqu'il y en avait de moins en moins, et j'avais un peu peur que les gens qui travaillaient pour Pôle emploi se retrouvent eux-mêmes au chômage. Et donc j'avais imaginé une voiture qui s'appelait MPE Concept Car. Donc c'était une voiture un peu comme les voitures qui préfigurent l'arrivée en ville des cirques. Donc c'était une voiture avec des haut-parleurs sur le toit de la voiture et le logo de la MPE sur les côtés de cette voiture. Alors la voiture diffusait un remix de « Si je l'ai en travaillant » de Blanche de Gilles Sapin, mais avec une version un peu plus péchue, vous allez l'entendre tout à l'heure. Donc j'ai demandé aussi un partenariat à l'Agence nationale pour l'emploi de Rennes, puisque en fait on faisait l'exposition à Rennes, en leur demandant « Est-ce que vous avez une voiture de société en fait, à me prêter ?» On m'a dit qu'à l'NPE, il n'y avait pas de voiture de société. Donc du coup j'ai loué une voiture, j'ai collé les autocollants que j'avais fait imprimer, et puis pendant 2 jours on a fait le tour de la ville de Rennes avec la commissaire de l'exposition, et on en a profité pour filmer tout ça, puisque par la suite ça a été présenté dans un deuxième volet à la Zoogalerie de Nantes. Alors je vous montre cette vidéo qui est très courte. Soyez un peu indulgents, 2000, je ne sais plus si c'était H8 ou... Je pense que c'est encore du H8, voilà. Voilà, donc là on est en 2000, on remonte petit à petit. On arrive à l'année 2002, et en 2002, en fait, je fais une proposition en fait, au bureau d'arrêt de recherche de Roubaix. Ça faisait un moment que j'avais envie de travailler sur les images qui étaient proposées par les banques d'images. Et dans les banques d'images, il y avait une rubrique spéciale qui était les images du travail. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Donc cette rubrique spéciale des images du travail, en fait, proposait tout un tas d'images préfabriquées pour pouvoir illustrer des plaquettes d'entreprise, pour pouvoir... illustrer toutes sortes de situations. Et ça m'intéressait parce que d'un seul coup, on avait l'impression que tout était disponible, qu'on pouvait. On n'avait plus besoin de faire de photographie, il suffisait de puiser dans ces banques d'images qui semblaient comme ça inépuisables. Et donc j'ai acheté une collection qui s'appelait Images du travail. Et j'ai décidé d'en conserver, enfin d'en prendre 6, et ces 6 pour réaliser un calendrier. Donc ce calendrier était envoyé par le bureau d'arrêt de recherche aux gens qui fréquentaient le lieu, ainsi qu'aux partenaires en fait du lieu. Donc j'ai fait un petit calendrier. Et dans les images, on les flèche là. Voilà, j'ai utilisé donc toutes ces images qui étaient à ma disposition. Alors parfois c'est très visible, parfois c'est un petit peu plus subtil, parfois c'est très potache, ça dépend. Celle-là, c'est une espèce d'image qui est quand même iconique en ce début 2002, qui est l'image de la poignée de main qui est l'idée de créer un partenariat avec un client. Et en réalité, j'ai transformé cette poignée de main en serrage de main. C'est-à-dire qu'avec Photoshop, j'ai augmenté les veines qui étaient sur la main, j'ai changé la couleur pour qu'elle soit plus foncée, pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il n'est pas en train de conclure un accord, mais en train de broyer en fait la main d'un concurrent. Celle-ci est vraiment trop subtile avec l'éclairage qu'on a ici et avec ma prise de vue un peu défaillante. Derrière, on avait un paperboard. Alors, le paperboard, c'est l'instrument indispensable au sein d'une entreprise en 2002. Et donc, sur le paperboard, il y a une espèce de petite courbe, mais qu'on voit pas, que vous ne voyez pas, avec un petit graffiti un peu potache juste derrière la tête de la dame, c'est écrit « Fuck capitalisme ». J'en suis pas très fier de celui-là. Alors celle-ci, un peu plus, mais c'est pareil, vous n'allez rien voir, je me rends compte que c'est très clair. Alors je vous la décris comme si vous la voyiez de près, donc c'est une image dont on pourrait imaginer que ça se passe à la bourse, dans une salle qui s'occupe des marchés, etc. Et au fond, on a un écran lumineux tout en haut, je ne sais pas si vous le voyez, une espèce de petit bandeau noir. Et sur ce petit bandeau, sur l'image d'origine, on avait les cours de la bourse. Et moi, j'ai remplacé les cours de la bourse par un petit conseil. Donc, c'est écrit Quit Work et Abubwak. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut faire un zoom? Ouais, c'est ça, Quit Work et Abubwak. Donc, prenez une pause en français. Alors, celle-ci, un peu plus visible quand même, je pense qu'on va pouvoir s'en rendre compte. Dans ces images d'entreprise, en fait, on avait des sous-catégories, les seniors au travail. Donc, il y avait cette image de seniors au travail, et puis à la base, ils sont en train d'observer des espèces de camemberts avec des couleurs, code couleur. Ils ont l'air intéressés tous les deux par ce qu'ils regardent, et moi j'ai changé, donc j'ai enlevé ces camemberts et j'ai mis une image de Pac-Man. Voilà, un joli tout. Alors, la réceptionniste parfaite, une plastique parfaite également, et donc là, j'ai fait une petite opération dentaire pour la rendre un peu moins lisse. Et celle-ci, j'en suis pas très fier non plus, mais bon, voilà, il n'y a pas besoin d'expliquer davantage un problème avec le clavier AZERTY. Tout ça, ça donne aussi, oui, cette idée que toutes ces images, en fait, qu'on nous proposait, alors déjà, elles étaient plutôt américaines, pas trop françaises, puisque les banques d'images, c'était Photostock, Getty Images, etc. Il y avait quand même un éclairage un peu particulier sur leur façon de voir du travail. Et tout ça, c'était très lisse, et finalement, c'était... que j'avais voulu faire, c'était juste rendre ça un petit peu plus rugueux, on va dire. Alors, on fait un petit bond dans le temps, et on arrive à Dunkerque. Pourquoi j'avais le monde en bas? Bon, alors ce qui est en bas, ça ne fait pas partie de l'image, en fait, mais je n'arrive pas à l'enlever. Donc on est sur la façade de l'avenir, donc c'est un bâtiment syndical qui se trouve à Dunkerque. Pardon ? Oui, près de la gare. Donc la première fois que je crois ce bâtiment, on est en 2013, et donc je vois cette enseigne un peu cassée, un peu délabrée, et j'ai comme une espèce d'intuition que cette enseigne de l'avenir qui vient du passé, puisque le bâtiment est construit en 1960 à peu près, j'ai l'intuition que finalement, ces mots, ces lettres un peu cassées, ça correspond un petit peu à ce que l'avenir est devenu, l'avenir qui devait être prometteur et qui d'un seul coup devient un peu bancal, un peu fissuré, un peu cassé. Et donc je fais d'abord une photo, et puis je garde la photo assez longtemps à la maison, et je décide à un moment de creuser un peu plus et de voir ce qui se passe sous les lettres et à l'intérieur du bâtiment. Et donc je rencontre les dockers qui fréquentent le lieu, et je leur propose un échange. Donc je leur propose d'échanger cette vieille enseigne contre une nouvelle fabriquée à l'identique, dans un lycée technique qui s'appelle Le Corbusier, et ce lycée il est à Tourcoing, et les gens qui vont fabriquer donc cette enseigne nouvelle, ce sont des jeunes qui sont en apprentissage en fait dans le lycée, et donc ça me semblait intéressant que d'un côté de la boucle on ait des gens qui sont en retraite et que de l'autre côté on ait des gens qui sont pas encore sur le marché du travail mais qui y seront prochainement. Et donc, tout ça, ça prend du temps parce qu'il faut expliquer le projet, on apprend à se connaître, les dockers me racontent leur histoire. Il y a pas mal d'affect aussi qui rentrent en compte. Enfin, moi, je m'attache à certaines personnes parmi eux. Et puis, un jour, je reviens avec les nouvelles lettres et donc... la vieille enseigne, moi je l'ai récupérée et je leur ramène donc la nouvelle enseigne qui est ici, qui est donc exactement la même, si ce n'est qu'elle est complètement neuve. Alors, en réalité, elle n'est plus vraiment neuve aujourd'hui, puisqu'il y a une lettre qui s'est abîmée. Alors je ne sais plus, Elisabeth, c'est le R peut-être, non ?
Je ne saurais pas dire.
C'est le E ? Alors c'est le E. Alors, je ne sais plus si sur la...
Ah non.
Oui, si, sur la précédente, le il manquait déjà un morceau, donc visiblement, il y a un mauvais sort qui s'acharne sur la lettre E. Donc, je ne sais pas, je me prévois peut-être à nouveau de changer non pas la totalité de l'enseigne, mais peut-être que la lettre E, quand j'aurai un peu de temps. On verra. Ce qui est amusant, c'est que ce lieu, en fait, visiblement, il y a eu des changements entre temps aussi. C'est-à-dire que peut-être le fait de changer cette enseigne, de redonner un nouvel avenir, ça a permis aussi peut-être à petite échelle, mais d'ouvrir certaines consciences. Et on sent que le lieu a été un peu rénové par endroits et qu'il y a une volonté de l'ouvrir aussi sur le reste de la population. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec la nouvelle enseigne sur la façade et puis parfois la vieille enseigne est présentée dans des expositions. Donc je ne sais pas si je l'ai dit au départ, mais elle est rentrée dans les collections du FRAC. Donc là, c'est une vue d'exposition au FRAC, je pense. Voilà. Alors, j'en passe par là pour parler finalement des pièces qui seront un peu périphériques en fait à ce travail, puisque là il est question de travail, de la fin du travail, puisque en fait les 3 minutes, c'est ça ? Oui. La fin du travail, puisque les dockers en fait sont en retraite. Mais à côté de ce travail-là, moi, j'ai développé d'autres choses. Donc, je me suis intéressé notamment à cette petite plaque qui est à côté de l'avenir et qui annonce donc aux travailleurs victimes de l'exploitation capitaliste. Alors, la première fois que j'ai vu ça, ça me fait un peu sourire. Je me suis dit que c'était une terminologie qui était un peu dépassée. Aujourd'hui, on l'a dit plusieurs fois, les travailleurs n'existent plus, les ouvriers non plus. On est sur des collaborateurs ou sur des, je ne sais plus comment tu disais, des opérateurs. Et donc, j'avais une espèce de petite madeleine de Proust en lisant ce texte, et ça m'a fait un peu sourire. Et puis après, j'ai lu ce qui est écrit en dessous. Et donc, j'ai vu qu'en fait, l'exploitation capitaliste, là, en l'occurrence, était on parlait des victimes du travail, bien sûr, mais de l'amiante. Et donc, en discutant avec les dockers, ils m'expliquaient que parfois, au fond de la cale, ils ne voyaient pas un être. C'est-à-dire que Dunkerque, c'était un port qui était par lequel transitait beaucoup d'amiante, et que parfois, ils baignaient vraiment dans cette poussière d'amiante. Et d'ailleurs, je pense que jusqu'en 72, je pense, les dockers en fait rentraient chez eux avec leurs vêtements de travail qui étaient remplis d'amiante et qui étaient donc lavés par bien souvent par leur épouse. Oui, c'est ça, 72. Et par la suite, j'ai lu aussi que entre 96 et 2025. Il y allait avoir 100 000 décès de travailleurs en France liés à l'amiante. Donc du coup, ça m'a fait un peu moins rire, cette petite phrase. Et j'ai décidé un peu à la manière d'un archéologue, en fait, de prendre une empreinte, en fait. Donc j'ai pris un papier assez fin que j'ai fixé sur la plaque et je suis prendre une empreinte de cette plaque comme quelque chose qui était à préserver, un peu comme on peut le faire avec un bas-relief si on est dans un monument historique en Égypte ou ailleurs. Alors, je me dépêche parce que Nicolas, je ne le regarde pas, mais il va me faire des gros yeux. Une dernière pièce qui était liée à, qui était liée à, donc, à mon passage donc, à l'avenir, sont les crocs, en fait. Donc, c'est une série de photographies qui n'a jamais encore été présentée, mais qui me tient beaucoup à cœur parce que ces crocs, en fait, de Docker, déjà, ils sont faits à la main du Docker. C'est souvent un ancien Docker qui les fabrique. Et il y a quelque chose de très intéressant aussi là-dedans, c'est qu'ils ont tous des formes différentes. Alors les formes, en fait, ça dépend de ce pour quoi ils sont faits. C'est-à-dire, si on veut soulever un sac de ciment ou un sac avec des grains de café, on ne va pas utiliser le même croc. Vous remarquez qu'il y a des pointes qui sont plus ou moins grosses. Si on regarde le croc qui est en bas à droite, on voit qu'il y a une série de petites pointes. Et puis au-dessus, ouais, il y a des crocs qui sont faits avec des fers à béton ou des choses comme ça. Donc il y a quelque chose d'assez, en tout cas moi qui me parle, dans cette idée d'objet fait main, d'objet qui s'est patiné, qui s'est fait à la main du docker. Et puis il y a quelque chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'a priori, je parle sous contrôle, mais a priori, les crocs en fait étaient interdits par les patrons du port parce que forcément ils faisaient des trous dans les sacs et donc il y avait une perte de matière première. Et donc il y a un emploi qui s'est créé en fait pour pallier à ça, c'était de recoudre les sacs en fait. Donc il y avait des personnes qui étaient censées recoudre les sacs après qu'ils aient été transportés par le docker sur le dos. Et puis on m'a raconté une dernière histoire, une petite anecdote qui était, alors ça avait l'air un peu contesté, mais moi j'aime y croire, c'est que ces crocs de docker, en fait, ils étaient aussi parfois portés lors de manifestations. Alors non pas pour s'en servir réellement, mais on le portait à la ceinture du pantalon, et l'idée c'était une espèce d'arme de dissuasion un peu, de dire attention à vos matraques, nous on a des crocs. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'aime bien l'histoire. Certains me l'ont dit, d'autres m'ont dit non. Mais bon, voilà, j'aime bien y croire. Donc ils ont, c'est vraiment des objets qui passent un peu sous les radars, puisqu'on n'a pas le droit de s'en servir. Ils sont en même temps des aides pour les ouvriers pour pouvoir porter. Ils sont en même temps des armes dissuasives, ils créent des emplois parallèles avec les personnes qui sont censées recoudre les sacs après le transport. Donc voilà, je trouve que c'est une série auquel je tiens, auquel je suis attaché. J'aimerais bien pouvoir présenter un jour. Voilà.
Merci beaucoup, Thierry. Merci.
Une question qui s'adresse à vous trois à propos du récit. Alors je pense au récit en voix off sur le film que vous avez présenté dans le temps avec les engins de levage, et tout comme la façon dont tu es témoin d'histoires singulières et d'histoires sociales, la place du récit. Et c'est peut-être un point assez critique. Pour la raison que si on revient à la question du travail vu par les sciences sociales, on est dans une période où le récit tend à disparaître, voire où le récit est recouvert, qu'elles soient des histoires singulières ou qu'elles soient des histoires collectives. Voire, dans votre film, peut-être un récit... que j'ai reçu comme étant un récit de vie qui va aussi vers la poésie, vers l'imaginaire, dans un travail qui, a priori, mais on peut se tromper, ne permet pas justement l'imaginaire. Ou alors peut-être la rêverie de la cabine.
Oui, je... dans ce film avec la voix off, on est aussi intéressé d'utiliser des métaphores. Et oui, parce que les métaphores sont un des moyens pour peut-être rendre visible ou pour faire semblant qu'on rendre visible quelque chose. Et surtout parce que dans le champ de l'économie, il y a beaucoup de métaphores qui sont utilisées. Hein? La main visible qui gère toutes les choses, comment on visibilise la main visible et invisible. Alors, le récit, c'est pour nous, et dans le nouveau film, pas dans le, peut-être dans le personnage, oui, mais bon, c'est le film. Oui. Ouais. Un moyen pour explorer cette question de visibilité. Et par contre, le conteneur est à un côté quelque chose d'emblématique, en image emblématique. Chaque fois qu'on entend des nouvelles sur l'économie, on voit dans la télé, on voit un terminal de conteneur, mais à l'autre côté, il est absolument invisible parce que les ports aujourd'hui sont loin et pas dans le centre comme avant. Et il cache ses contenus et c'est aussi presque déjà en métaphore.
Oui, et j'ai bien aimé que je ne savais pas que tu vas montrer aussi des outils des Docker, parce que ça, quand même, c'est exactement cette question. Pourquoi nous, par exemple, on n'a pas travaillé cette fois-ci avec les gens, les Docker, parce que toute notre expérience, c'est des outils qui sont encore là, mais en même temps, plus là, d'une manière. Et c'est seulement une question de futur aussi, de l'avenir, peut-être que toutes les choses vont déjà vont être automatisées et toute cette révolte, c'est aussi contre ce changement de quelque chose où tout va être automatisé. Il y a déjà des tests avec les grands bateaux de conteneurs qui vont rouler tout seuls avec une équipe de 12 ou 17 personnes, un bateau tellement immense, si on est en face de ce bâtiment, j'ai dit, un bateau de 400 mètres, un gigantisme, et peut-être pour exactement pour ce film-là, la littérature, ou même une façon d'écrire poétique, fait aussi une clash. Il y a chaque chapitre a aussi un peu notre tonalité, mais quand même un peu même ancienne peut-être.
Je vais essayer de répondre un peu à ma façon. Le récit, c'est important, mais en fait, il n'est pas que qu'une fois que la pièce est réalisée. Ça m'arrive souvent de collaborer, enfin de devoir en fait raconter avant même que le travail ne soit fait ce que je vais faire, puisque des fois souvent je demande à des personnes de m'aider en fait dans la production. Une pièce dont j'ai pas parlé mais qui est aussi importante, qui est un travail que j'avais fait avec des bleus de travail qui sont des bleus de travail qui sont juste décousus et recousus différemment de façon à faire des banderoles de manifestation. Donc en réalité, les passants qui sont en haut, devant et derrière se retrouvent aux deux extrémités de la banderole. Les deux faces avant sont cousues ensemble, les deux faces arrière aussi, et réunies par le bas, par la coutume. Et donc ça fait des banderoles sans message, mais qui quelque part en fait sont aussi comment dire, qui parle en fait de cette transformation, de ce glissement où finalement les usines sont de moins en moins des usines, sont de plus en plus des lieux entre guillemets culturels ou des tiers-lieux, ou voilà. Et du coup, le travail il est dans une espèce de fond, c'est presque un folklore de un folklore du travail, un folklore de la balle. On en parlait ce matin, je ne sais plus qui disait, le travail ça devient une espèce de vêtement un peu chic. Voilà. Et du coup, pour faire ces banderoles, j'ai dû raconter, mettre en récit en fait ce que j'allais en faire auprès d'ouvriers, puisque je suis allé à une sortie d'usine du côté de Saint-Maurice, et, enfin, ouais, entre Saint-Maurice et Mont-en-Barœul. Et j'ai échangé en fait avec les ouvriers, j'aurais expliqué mon projet, j'aurais proposé d'échanger en fait leur bleu de travail ancien qui était chargé d'une histoire d'un moment de travail avec des bleus de travail neufs. Donc c'était avant le travail sur l'avenir en fait. Et c'était un peu déjà une proposition un peu similaire d'échanger du neuf contre de l'ancien chargé d'histoire. Voilà. Et puis ces objets, en tout cas ce que j'essaye de faire en ce moment, c'est de pas faire que des objets morts qui sont juste présents au mur. J'ai envie qu'ils soient activés, qu'ils aient leur histoire avant, là, dans le cadre des banderoles, mais qu'ils aient aussi une histoire après. Et donc c'est arrivé plusieurs fois en fait que ces bannières soient après portées, qu'il y ait une activation sous forme de défilé. L'histoire est avant, au moment où j'essaie de convaincre des gens, l'histoire est pendant et aussi après. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Il nous reste un petit peu de temps, environ 5 minutes, si vous avez des questions. Sinon, moi, j'avais.
Non, mais en attendant de vous la préparer les vôtres, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que sur le récit de travail, effectivement, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a une résurgence qui est en train de se faire. Je connais une compagnie qui s'appelle Pourquoi se lever le matin, qui s'est fixée comme objectif de recueillir des récits de travail. D'ailleurs, ils étaient présents à la dernière rencontre de Réiculture. Alors, ça se cherche, ils récoltent les récits et. Ils les retravaillent, donc c'est tout un question complexe, quand même. Bon, pas plus, mais enfin, ils font ce travail et ça produit après un texte qui est en accord, qui est relu par la personne qui a parlé, et le texte n'est repris que si la personne est absolument d'accord, il y a des négociations sur le texte, etc. Mais enfin, en tout cas, ça existe, c'est ça que je veux dire. Et donc ça, c'est... Il y a plusieurs mois, il y a très longtemps, sur Saint-Nazaire, il y a une association qui s'appelle le CCP, le Centre de Culture Populaire de Saint-Nazaire, qui recueillait des récits de travail, qui fait beaucoup. Cette organisation est très très bonne, sauf qu'elle communique pas. Ils seraient là, je leur dirais, parce que ça ne se sait pas. Ça reste les bouquins de femmes, si c'était publié, mais ça dort. Hein, et voilà. Mais enfin, le travail est fait, quoi. Ensuite, c'est la même organisation a fait un travail sur l'amiante, qui s'appelle Poussière du Diable, et donc qui a recueilli les paroles des ouvriers, là aussi, enfin, des ouvriers, des ouvrières, et des épouses, parce que, effectivement, moi, je n'avais pas du tout. D'ailleurs, quand je lui suis, ça m'a beaucoup appris, parce que je n'avais pas pensé, n'étant pas de toucher par l'amiante directement, je voyais le problème que chez les salariés. Mais en fait, effectivement, les salariés, en rentrant chez eux, exportaient la poussière d'amiante. Donc, il y avait leurs épouses qui étaient aussi contaminées. Et donc, ce film Poussière du Diable est un très beau film qui a été fait. C'est le Centre de Culture Populaire, qui est un intercomité d'entreprise, qui a produit ce. Ces éléments. Donc ça, c'est dans un moment. Puis c'est à peu près tout ce que je voulais, mais c'est plutôt documentaire, anecdotique, c'est pas des questions sur le fond.
Alors, c'est vrai que ça paraît un peu paradoxal, parce qu'on considère souvent que l'œuvre artistique en elle-même est suffisamment parlante, a suffisamment de signification pour qu'il n'y ait pas de récit. Mais ça dépend des œuvres artistiques. Là, je voulais juste compléter parce qu'en fait, Thierry a fait beaucoup plus de travail que ce qu'il dit avec les dockers. Il les a vraiment rencontrés, vraiment Il a vraiment échangé avec eux et il a sorti une vidéo qui est un vrai récit de mémoire. Donc il y a un récit de mémoire là pour le coup, et de toute façon là, c'est important parce que la mémoire est récit par définition. Et après sur le bâtiment, effectivement il est bien tombé, c'était le bon moment pour faire ce qu'il a fait. Et donc l'avenir maintenant, donc c'était un local syndical, CGT, assez mal perçu finalement. Et témoin de l'histoire sociale à Dunkerque, mais pas reconnu non plus parce qu'il y a eu le conflit ici des dockers. Et donc l'avenir maintenant est ouvert, c'est une salle ouverte à tout public, elle peut être louée. Et je signale juste deux manifestations. Samedi dernier, c'est la plateforme de soutien aux migrants qui a tenu son forum à l'avenir. Et la semaine prochaine, c'est le Fructose qui fait son mini mammouth de l'art, donc dans la salle de l'avenir. Donc c'est une salle syndicale au départ et qui permet d'autres histoires. Voilà. Donc l'œuvre artistique peut-être aussi peut susciter.
Merci. Alors effectivement, je vous rejoindrai sur le fait qu'elle peut susciter des récits, un imaginaire, notamment concernant des arts plastiques et visuels. Et sur la question du récit, moi je réagis tout de suite en pensant à d'autres formes artistiques qui sont plus liées au récit forcément, notamment la forme théâtrale avec Jean Mémoire, 501 Blues de Bruno Lajara qui avait été monté, et là maintenant je pense que ça va faire 25 ans, et qui était avec des ouvrières, recueil du récit, travail avec elles de au moins 3 livres, le déo de François Bon, le livre de Joseph, je crois que c'est Joseph Pontus, à la ligne, qui est décédé, qui était paru il y a 2-3 ans, et le troisième, dont je ne me souviens plus du titre, mais qui est une saga. Je ne vais plus revenir dessus là, mais voilà d'autres champs qui sont plus liés forcément à la parole, au recueil de la mémoire, mais enfin pas plus, pas moins, mais qui sont différents et qui viennent eux aussi compléter et témoigner de tout ce qu'on a pu entendre aujourd'hui dans le champ des arts plastiques au sens large.
Juste pour préciser, en fait, le début de cette aventure, en fait, était de. C'est moi qui l'ai décidé, c'était pas dans le cadre d'une résidence ou quelque chose comme ça. C'était vraiment une rencontre qui s'est faite finalement presque au même rythme qu'une vraie résidence, c'est-à-dire que j'y allais régulièrement. Et là, je continue à y retourner tous les premiers mai. Et j'ai commencé il y a presque 10 ans, en fait, maintenant, une série de photographies. Je m'intéresse aux gens qui défilent, donc finalement une partie des dockers que j'ai rencontrés, plus d'autres personnes de la ville de Dunkerque d'ailleurs, et puis aux gens qui les regardent défiler. Donc ça s'appelle Immobile, et donc c'est une série de photographies où on voit les gens qui se mettent en scène entre guillemets en défilant, et puis les gens qui eux restent chez eux et les regardent défiler. Alors c'est aussi un instantané, un instant T de la fréquentation aussi de ce lieu, de ce lieu de l'avenir, puisque en fait, quelque part, on a ceux qui partent, hein, puisque c'est aussi une classe d'âge, qui il y a certains, parfois des décès liés à l'avenant ou pas. Et puis, et voilà. Et donc moi, j'essaie d'être fidèle à ce rendez-vous tous les ans. Et voilà, j'aurais pu montrer d'autres choses encore que je fais avec eux. Mais voilà, on a 20 minutes, on déborde un peu dans les questions. Voilà.
Alors, on va bientôt arriver à la fin. Il y aura une question dans la salle. On va bientôt arriver à la fin. Je prends juste la parole 30 secondes avant toi, Jean-Pierre, si tu peux.
Juste pour m'excuser, parce que parce que j'ai parlé du CCP, mais il ne faut pas oublier de travailler de texte sur les récits de travail. Parce que là, quand même, il y en a. Voilà, c'est tout, c'est pour m'excuser de ça. Et puis, bon, pour ajouter juste au moins la fin, c'est aussi la transformation du métier de docker. On ne peut pas penser non plus les dockers C'est dramatique d'ailleurs, parce que comment tout ça se gérer, cette transformation, qui est pour une partie nécessaire, on ne peut pas regretter quand même. Bon. Mais comment on est capable de gérer les transformations, ça c'est une vraie question, d'ailleurs qui était présente dans le. Je rejette un peu, mais dans la biennale, et qu'il y a eu, il y a des réflexions qui sont faites très fortes là-dessus. C'est quand même un problème de la classe ouvrière, de, je l'ai vécu pour toute ma existence, hein, la HG, vous savez bien que j'ai pas vu qu'une entreprise fermée, hein, j'ai passé mon temps à ça, pas à les fermer, à lutter contre. Mais ça a été une, c'est comment effectivement, quel rapport on a à ça, donc, comment ça, c'est des drames importants, des souffrances, des drames. Pas que pour les salariés en premier, mais pour tout le monde.
Non, juste la réflexion que je voulais apporter, c'est qu'effectivement, la question des récits de travail, que ce soit ceux du passé ou ceux qui tracent l'avenir, ne peut pas être portée seulement par la création artistique. C'est dans une espèce d'essentialisation de l'art artistique qui pourrait la voir, celle du passé, celle de l'avenir. Elle est forcément à l'articulation de plusieurs dynamiques politiques, sociales, anthropologiques, qui sont complexes et qu'il ne faudrait pas oublier. Là où il y a un manque criant aujourd'hui, c'est qu'effectivement on a un récit un peu massif sur le travail qui nous est raconté par des mécanismes économiques puissants qui nous vendent un récit, une image du travail en particulier. Et effectivement, le recours aux artistes, leur travail, permet à un moment donné de donner de la diversité, en fait. De ramener de la diversité dans ces récits, pas tout seul, jamais, mais au moins permet d'inscrire une respiration, je dirais, démocratique, en fait, dans cette histoire de récits. C'est pas simple, mais je pense qu'il faut, voilà, il faut y travailler. Je crois que la journée d'aujourd'hui, elle a au moins eu, et je te remercie, Marc, d'avoir abordé cette question des récits à la fin de la journée, elle a au moins eu pour le mérite de montrer qu'il y avait des gens et des structures qui font, en fait, qui font des choses, qui essaient de faire avancer ces récits de travail, pas en partant d'une façon théorique, pas en étant en surplomb, mais en étant au quotidien, y compris dans les contradictions, ça avait été dit tout à l'heure, et dans les tensions, en partant du réel, en fait, du réel, de la construction du réel et de la relation avec le territoire et avec les gens qui font, en fait, qui font et qui construisent le travail d'aujourd'hui. Voilà, je crois que vous voulez dire un petit mot. Aussi là. Et puis après, on conclura cette longue et belle journée, si vous voulez bien.
Bon, remercier Travail et Culture d'avoir donné la parole aux artistes et à quelques autres aussi. Juste ajouter quelque chose par rapport à cette question des récits. Je souscris, Nicolas, à ce que tu viens de dire, c'est qu'il ne s'agit pas de faire porter aux artistes une responsabilité qui serait celle de créer du récit. Non, ce que je voulais juste souligner, c'est en se replaçant sur le champ des sciences sociales et donc des sciences sociales qui interviennent autour du travail, le récit, alors d'où qu'il vienne, hein, qu'il soit du côté du théâtre, bref, des arts visuels, est important à reconsidérer par rapport aux contraintes financières et de gestion des entreprises qui amènent à des modes de gestion où seul est pris en compte le présent. Et en fait, le présent se répète chaque jour. Ce qui, avec l'individualisation du travail, recouvre ce qui pourrait être justement des récits collectifs, alors qu'on va trouver dans les générations plus anciennes. Voilà, c'est tout juste ce que je voulais préciser.
Et bien, merci à tous les quatre pour cette table ronde. Juste pour vous dire, pour finir la journée, que la synthèse en fait, de cette rencontre sera en ligne sur le site Internet de Travail et Culture à l'onglet de la plateforme Culture Art Travail, que l'intégralité des enregistrements, une fois qu'ils ont été un peu toilettés, sont aussi disponibles pour les gens les plus courageux qui veulent réécouter toutes ces belles paroles, et que le contenu vidéo de Rémi, de la fractal qui est là, pour les plus vraiment courageux, ça dure, il durera 10 minutes à quart d'heure, sera aussi en ligne dès qu'on aura travaillé.